Palestine, Palestine ici, Palestine là-bas, ce soir au micro de Radio Calade.
Palestine ici, Palestine là-bas, au micro de Radio Calade, Mabrouk Lazreg, comité caladois Action Solidarité.
Bernard Ivernet, des missions civiles, campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien. On va reprendre, on va continuer le sujet, un sujet qui nous avait intéressé notre dernière rencontre. Et puis qui nous avait même intéressé la rencontre précédente aussi, c'est puisque cette marche du retour continue tous les vendredis, j'allais dire inlassablement, les manifestations au poste à la sortie nord de Gaza.
Alors, et... la marche du retour, ouais, on a cette initiative, la société civile palestinienne. Le sujet a été souvent évoqué dans ces émissions. Il est évoqué depuis le mois de mars. Alors, pour faire un petit historique, cette marche du retour, elle est lancée le 30 mars dernier, à l'occasion de la Journée de la Terre. La grande marche du retour se poursuit dans la bande de Gaza jusqu'à nos jours. Juste pour prendre le dernier bilan, la dernière marche qui a eu lieu ce vendredi. Alors, vendredi, on était le 9. Hein. On était à... Alors, attends. J'ai pas le...
Alors, des morts, il y en a eu énormément. Donc, si on part sur la base d'environ du mois de mai, il y avait eu, au mois de mai, une centaine de morts, dont déjà 62, hein, le 14 mai. 62 morts... de cette manifestation, c'est énorme, et 2000 blessés. Voilà. Là, on était au 14 mai, donc c'était un vendredi, et aucune victime du côté israélien. Ce qui n'a pas changé du tout. Du côté israélien, on a toujours aucun mort. Par contre, à peu près au jour d'aujourd'hui, on est environ à 200 morts, si je ne me trompe.
Voilà. On comptabilise le nombre de morts à un peu plus de 200. Donc les derniers, la dernière manifestation qui a eu lieu le 9 novembre, comme je disais, c'est un mort et plusieurs centaines de blessés. Donc l'initiative est continue. Comme je disais tout à l'heure, depuis le 30 mars, les manifestants, la bande de Gaza manifestent.
Voilà, c'est une manifestation qui se veut non-violente, hein, mais les consignes sont assez claires. On tire à balles réelles sur la foule. Hein. Bah, Netanyahou considérant que c'est une opération terroriste. Voilà.
Bah, alors après, dans cette grande marche du retour, elle a quand même dévoilé toute la brutalité, la cruauté, le racisme et l'arrogance de l'entité sioniste, mais aussi sa faiblesse, son instabilité politique. Sa lâcheté, sa veulerie. Lorsque des dizaines de milliers de Palestiniens de tout âge se retrouvent une fois par semaine pendant quelques heures à proximité des barrières installées par les sionistes séparant ce qu'ils ont volé de ce qui ne l'est pas pour manifester pacifiquement, sans armes à feu, pour bien le souligner, et réclamer leur droit à retourner dans leur pays volé et leur droit à vivre dignement, sans blocus, les soldats sionistes tirent, blessent, estropient, tuent et dansent de joie lorsqu'ils visent des enfants âgés de 7 à 12 ans.
Voilà. Donc c'est pas simplement des hommes, c'est pas simplement des femmes. C'est des gens de tous âges et de toute catégorie sociale, je vais dire. Et puis ce sont aussi des enfants. Hein. On vient manifester face à la barrière qui sépare Gaza d'Israël. On vient manifester le vendredi en famille.
Alors, elle a aussi la grande marche de retour, elle a aussi dévoilé l'implication, la compromission, l'hypocrisie et l'impuissance de ce qui s'appelle la communauté internationale, lorsqu'il s'agit de l'entité coloniale sioniste. Alors, il faut savoir, depuis le 30 mars, les États et les organismes internationaux qui la composent assistent à des massacres sans oser lever la voix contre le monstre qu'ils ont engendré. Donc, encore une fois, silence complet, silence total sur ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Depuis le 30 mars, des manifestations de façon hebdomadaire, de façon pacifique, issues de la société civile palestinienne, sans aucune influence qui viendrait de quelconque parti. Et au retour, au bilan de ces manifestations, c'est de façon hebdomadaire des morts, des blessés, des mutilés, des estropiés. C'est le bilan aujourd'hui catastrophique de cette initiative. Mais ce qui est aussi déterminant de ce peuple héroïque et de cette initiative, c'est que la détermination est présente et que le courage qui les habite continue justement à porter espoir pour que leurs revendications soient portées et que dans une finalité, qu'elles aboutissent.
Voilà. 14 mai 48, comme tu le disais, c'était la Nakba. 70 ans plus tard et quelques mois, on en est toujours au même point. C'est-à-dire que les gens qui vivent à Gaza, comme ceux qui vivent éparpillés un peu dans le reste du monde, ont le statut de réfugiés. Mmh. Hein, voilà, il n'y a pas de statut palestinien, il y a un statut de réfugié. Voilà. Donc,
alors peut-être pour rappeler aussi le début et l'objectif au départ de cette marche qui a commencé le 30 mars. Les objectifs, ils étaient à court terme puisque les marches devaient prendre à peu près 2 mois et devaient se terminer le jour du 14 mai puisque le 14 mai c'était le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et le lendemain c'était le 15 mai pour commémorer la catastrophe qu'on appelle en arabe la Nakba. Sauf qu'aujourd'hui l'extension de l'objectif a été mis à exécution, en disant que ça ne suffit pas, que on ne pouvait pas se contenter du court terme et avec des objectifs limités. Donc l'initiative et la démarche continue prendre l'ampleur, et que la détermination du peuple palestinien répond présent et dans un souci justement de faire entendre leurs revendications.
Alors, quelles sont les revendications de ces marcheurs ?
Les revendications, elles sont simples, puisqu'elles s'inscrivent en conformité avec le droit international et les résolutions de l'ONU. Et les résolutions de l'ONU, elles sont claires, puisque dans la résolution 194, il est stipulé que le droit au retour est inaliénable, dans le sens où tout Palestinien qui aspire à revenir sur ses terres, il est dans son droit le plus élémentaire. Sauf qu'aujourd'hui, une barrière ou une frontière leur est imposée de force, un blocus injuste de la même façon, qui donne en échange une impossibilité de rentrer dans leur de revenir chez eux, puisque on a beaucoup de réfugiés, la majorité des réfugiés habitent à Gaza et voudraient justement revenir dans leur demeure qui est la Cisjordanie ou qui est dans ce qu'on appelle la Palestine occupée où résident les Arabes de 48.
Voilà. Donc le blocus qui dure depuis 11 ans, mm-hmm. On se rappelle l'évacuation des Juifs de la bande de Gaza en 2005, si je ne me trompe pas.
2005, oui, avec l'initiative d'Ariel Sharon.
Voilà, et donc après c'était la fermeture des frontières, à la fois du côté israélien, mais aussi du côté égyptien, avec des ouvertures parcellaires.
Voilà. Alors 2005, oui, c'est comme tu dis, c'est le retrait des colons de la bande de Gaza. 2006, il va s'en suivre une élection, puisqu'il va y avoir les élections législatives en 2006. Le Hamas va gagner les élections dans la bande de Gaza, à la majorité. Ça va mal être vécu par beaucoup de gens. Surtout par la communauté internationale, pays occidentaux. Et il va s'affronter dans la bande de Gaza les deux grandes fractions politiques entre le Hamas d'un côté et le Fatah de l'autre. Le Hamas en sortira vainqueur. Il ne sera pas démonté pour la sorte. Et le blocus va prendre tout son effet, puisque depuis 2006-2007, les Gazaouis vivent un calvaire. Un blocus maritime, un blocus terrestre. D'y entrer, c'est difficile. D'y en sortir, c'est encore pire. Et les Gazaouis, aujourd'hui, dans un périmètre de... On parle d'un kilomètre 500 mètres carrés. Un kilomètre et demi de mètres carrés. C'est là. Et puis, en termes de population, ouais. On est à plus de 1 million.
Alors, si c'est plus d'un million et demi.
Plus d'un million et demi d'habitants. Ouais. Donc, toutes les denrées alimentaires, avec toutes les difficultés que ça... La question de l'eau, la question des matières premières sont difficiles justement à faire.
Ouais, la vie au quotidien, c'est quelque chose d'impossible. Une vie sereine au quotidien, c'est quelque chose d'impossible. Donc, avec le manque de nourriture, le manque d'électricité, le manque d'eau, enfin bon, voilà. les éléments essentiels à la vie ne sont même pas pourvus.
Donc d'où cette forme de résistance populaire, cette résistance non violente. Qui justement s'inscrit dans cette initiative qui est la marche du retour.
Il faut voir que l'ONU a fait des études un peu sur la bande de Gaza. Je ne sais pas comment ça s'est organisé. En tout cas, ça sera complètement ou totalement inhabitable, invivable à partir de 2020, si les choses continuent à se développer comme ça.
Aujourd'hui, alors
la population augmente, puisque la population augmente régulièrement.
Pour avoir quelques chiffres sur Gaza, puisqu'on parle de Gaza, c'est 1,8 million de personnes qui sont incapables de quitter Gaza à cause du siège israélien. C'est 95% de l'eau disponible s'avère non potable. C'est 373 000 enfants ont besoin d'un support psychologique. 73% des Gazaouis dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. 100 000 civils sont toujours sans abri et 200 000 écoles ont été détruites par Israël depuis 2014. Donc ça, c'est encore un bilan, pour dire que les chiffres que j'ai devant les yeux, mais c'est encore pire que ça.
Bien sûr.
Ça, c'est qu'un aperçu de la situation et de ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est aussi 4 heures d'électricité par jour. Mmh. C'est 45% de chômage. 46% d'enfants qui souffrent d'amnésie aiguë. 50% des enfants n'expriment aucun désir de vivre. C'est terrible. Et comme on l'a dit au départ, 2 millions de personnes qui se sont interdites de circuler.
Voilà. Donc, la pollution des sous-sols, etc. Bon, voilà. Alors, il y a quelques organisations israéliennes, B'Tselem par exemple, qui ont publié une lettre ouverte aux soldats israéliens, leur demandant de ne pas tirer sur les Palestiniens. Mmh. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. B'Tselem, c'est je sais plus ce que ça veut dire, mais enfin c'est une organisation de gauche qui travaille en parallèle en parallèle avec les des gens comme Warshawski par exemple. Mmh. Dans beaucoup de contacts avec les organisations pro-palestiniennes. Il y a d'autres organisations, notamment qui travaillent avec le CCFD, Breaking the Silence, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut en parler pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe à Gaza. Et donc avec le CCFD, ils vont récupérer des témoignages, des témoignages de soldats, tout ce qui va être important à dire, notamment les ordres donnés par l'armée. Et donc, un livre est récemment paru, ça s'appelle « Why I Broke the Silence »,« Pourquoi j'ai brisé le silence », et qui propose des témoignages poignants d'anciens soldats. Donc, des gens à qui on a demandé de tirer sur la foule, voilà.
Ouais, alors, moi, les infos que j'ai justement sur cette organisation, c'est que c'est des soldats qui aujourd'hui brisent le silence en disant ce qu'on leur a dit de faire quand ils étaient en tant que soldats.
Bien sûr. Hein.
Et l'objectif et le mot d'ordre, c'était de tirer et de tuer des Palestiniens.
Oui, oui, oui.
Ça c'est ce qui est dit aujourd'hui de façon claire. Oui. Et qu'aujourd'hui, même, ils en payent le prix, puisqu'il y a même eu qu'ils ont eu des petits soucis avec la justice israélienne. Il y en a même qui ont été emprisonnés. des anciens soldats israéliens. Mais ils ont eu ce mérite quand même de dire ce qui leur était ordonné de faire. Et en même temps, quand on apprend ces révélations, c'est pas un secret pour nous, parce qu'on le savait, mais c'est vrai que quand c'est dit de la part d'anciens soldats israéliens, c'est toujours bien à savoir par rapport à l'opinion publique, pour justement avoir une idée de ce qui se passe là-bas et comment opère justement l'armée israélienne.
Ouais. Alors, à d'autres périodes, à la fin de la guerre, les soldats allemands disaient on ne savait pas, voilà, mais c'est pas possible de pas savoir, quoi. On l'a vécu, donc on a tué des gens. Et là, on peut pas dire autrement que on fait un massacre, quoi.
Ah bah, il y a une, comment dirais-je, comme je disais tout à l'heure, il y a une feuille de route et avec des objectifs bien ciblés, en leur disant voilà ce qu'il faut faire. On n'est plus dans ce qu'on disait autrefois quand on appelait Tsahal. Tsahal, c'était soi-disant une armée de défense. Non, ce n'est plus une armée de défense. C'est une armée, et il ne faut pas avoir peur de dire les mots, c'est une armée de criminels. Puisque là, c'est vraiment des crimes de guerre.
Ouais, oui, il y avait d'autres groupuscules qui étaient encore plus agressifs. Mais Tsahal avait jusqu'à une certaine époque une vraie image de marque, quoi.
Ah bah oui, c'est parce que c'est ce qui faisait justement refléter à l'extérieur d'Israël. Mais quand on regarde de plus près, c'est pas ce qu'ils essayent de donner. Après, comment dirais-je, l'Israël a l'art de redorer son image à travers justement, à une époque, c'était son armée, mais aujourd'hui c'est à travers la culture, à travers l'art, à travers la... Et on en reviendra, puisque voilà. c'est d'actualité.
Voilà, donc, la transition est bien trouvée.
Ouais.
Donc, l'Eurovision.
Alors, l'Eurovision, c'est un événement qu'on connaît, puisque c'est...
Eurovision, donc c'est l'Europe. Tous les ans. L'Europe, ça va jusqu'à...
Ce qui est bizarre, c'est quand on parle d'Eurovision, la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est Israël, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'Eurovision? Elle n'est pas dans l'Europe. Il participe depuis des années. Ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, c'est la chanteuse israélienne qui a remporté le concours. Et la coutume, c'est que la personne qui remporte le concours, l'événement est organisé
dans son pays.
Mmh. Alors, il est prévu que l'Eurovision soit organisée cette année en Israël. Mais on a voulu faire dans la provocation, mais on a voulu que cet événement se tienne à Jérusalem. Donc la société civile palestinienne, encore une fois, qui est bien en avant et qui est méfiant et vigilant contre la tenue de cette initiative, a fait que l'événement n'ait pas lieu à Jérusalem. Donc pression, et l'événement n'aura pas lieu à Jérusalem, mais à Tel Aviv. Donc ça, c'est déjà une première étape dans justement faire que cet événement subisse une déconfiture, si on peut appeler ça comme ça, ou une annulation de façon définitive. Mais aujourd'hui, avec toutes les pressions qui ont été signalées et puis dénoncer, dans le sens où la circulation des personnes pour assister à l'événement ne voyait pas justement d'objection de la part d'Israéliens. Parce que les Israéliens, il faut savoir que quand il y a des personnes qui veulent se rendre en Israël, il y a des personnes qui sont sélectionnées sur le tas, et il y en a même qui font demi-tour.
Oui, bien sûr. Hein.
Et je pense que tu en connais quelque chose.
Oui.
Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi ça qui est levé. C'est que la circulation pour les personnes ne voyait pas une objection de la part du gouvernement israélien. Mais ça continue, il va y avoir encore des pressions. Et aujourd'hui, il y a la part de certains artistes qui ont signé justement et qui lancent une pétition pour que l'événement n'ait pas lieu. Il soit justement annulé. Puisque aujourd'hui, ce qui est dénoncé dans cet appel, c'est que... d'un côté, on va organiser cet événement, l'Eurovision, mais de l'autre côté, ce pays, c'est un pays qui vient de voter une loi qui s'appelle la loi de l'État-nation du peuple juif. cette loi à valeur de constitution n'accorde même pas les mêmes droits aux Israéliens selon qu'ils sont juifs ou non juifs. Israël a la colonisation, l'occupation des terres palestiniennes, et ajoute désormais à sa liste l'apartheid dans sa propre population. Donc, avec tout ce qui est aujourd'hui dénoncé et montré du doigt de la part de la société civile palestinienne et des grandes organisations, l'événement ne peut pas avoir lieu en Israël. Donc voilà, avec tout ce qui est mis, tout ce qui est mis en avant.
Et puis le travail de BDS, notamment sur les artistes, hein, qui ont donc refusé de venir se produire en Israël, hein, et des artistes qui sont des renommées mondiales, hein, je pense à Roger Waters, Stevie Wonder, Beyoncé.
Alors oui,
Shakira,
l'appel.
Qui ont annulé leur concert.
Ouais. Voilà. Alors le travail qui est fait par le mouvement du boycott des investissements et sanctions, pour que justement faire en sorte que les artistes ne puissent pas se produire en Israël, mais de même que les artistes israéliens qui justement sont parrainés par plusieurs ministères israéliens, entre autres le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et deux trois autres ministres, ne soient pas justement le panel pour qu'ils viennent justement se produire et faire la propagande.
Et faire la propagande, oui, tout à fait.
Puisque dans cette initiative, on voit bien qu'à travers l'aspect culturel, on veut justement blanchir. On veut blanchir ce qui se passe sur place. C'est la colonisation, c'est l'occupation. Et avec cette fameuse loi qui a vu le jour au mois de juillet, c'est l'apartheid de façon claire et nette. Précise. Il n'y a plus d'ambiguïté aujourd'hui. Donc voilà, c'est...
Voilà, on va suivre tout ça.
Ouais, parce que, comme tu disais, quand tu parlais des artistes, cette année, c'est une année un peu particulière, puisque la France, toutes les années, elle met à l'honneur un pays. Et cette année, puisque c'était dans la célébration des 70 ans d'Israël, c'était justement la saison, ce qu'ils appellent la saison France-Israël.
Voilà.
Donc fêter un peu cette année avec des programmations à travers tout le pays. Et aujourd'hui, quand ces programmations sont faites dans certaines villes, il y a justement une contestation. Une contestation de la part de manifestations, de la part de gens qui sont solidaires avec la Palestine, pour dire que non, on ne peut pas accueillir, même si c'est par le biais de la culture, on sait qui est derrière, qui c'est qui parraine tout ça, et dans quel but. C'est pas dans le but de...
Mais bon, on s'aperçoit quand même que... Ouais. On s'aperçoit quand même que le foot, le cyclisme, puisque l'année passée, le Tour de France est parti d'Israël.
Alors, tu dois faire allusion peut-être au Tour d'Italie.
Au Tour d'Italie,
Le Giro,
excuse-moi. Ouais. Donc voilà, le sport, la culture, etc., tout ça peut bien relever du travail de BDS. Et je pense que nous, les citoyens, on a aussi un travail à faire de ce côté-là, hein, et à secouer un peu le cocotier pour que les choses ne soient... Qu'elles ne viennent pas comme ça. Hein,
Que les choses, non, ne sont pas si...
Normales, quoi.
Ne sont pas normales. C'est que derrière, il y a quelque chose. Et on est bien éclairé sur la situation. Ils avancent à visage masqué, mais on sait très bien que derrière, il y a une entreprise, justement, de blanchiment de cette entreprise. Voilà.
Puisqu'on est le début novembre, on va parler quand même de la mort d'Yasser Arafat.
Ouais.
Hein, le 11 novembre 2004. Si on se souvient un petit peu, juste la deuxième intifada, hein, en septembre 2001, si je me souviens bien.
On est en octobre 2000. En octobre 2000, c'est ça.
Ouais,
c'est
ça.
La deuxième intifada, avec la provocation de Sharon sur l'esplanade des mosquées. Et on est à un moment donné, il va y avoir la deuxième intifada où il va y avoir plusieurs morts. Et je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait la mort de ce petit jeune, Mohamed Doura, où un certain Charles Anderlin avait fait avait fait un petit reportage où il avait été démonté par toutes les officionnistes ici en France, comme quoi son truc était... C'était un véritable montage, alors que c'était vraiment le. C'était vraiment les vraies photos.
Donc Sharon à la Moquetta.
Alors, pour revenir un peu à.
Prisonnier chez lui.
À Yasser Arafat, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas l'habitude de parler de Yasser Arafat. Pourtant, ça a été le symbole de la résistance palestinienne. Alors voilà, il est mort il y a 14 ans. On est le 11 novembre 2004. Voilà, c'était un grand homme, la cause palestinienne. Il est mort le 11 novembre 2004, comme je disais, et puis il a été inhumé le 12 dans la Moukata, dans son quartier général à Ramallah.
Il était prisonnier chez lui par les forces israéliennes.
Voilà. Donc voilà, après, bon, il y a eu même si avec les accords d'Oslo, on n'était pas d'accord avec lui. Mais avec bon, ça reste quand même un grand homme de la question et de la cause palestinienne, et de la lutte palestinienne.
Merci Radio Calade. Ce soir, Palestine ici, Palestine là-bas, c'est fini. Bonsoir à tous.
En vous retrouvant prochainement, et merci à nos auditeurs. Abou Klazrek, Comité Action, Caladois, Solidarité.